Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1963, Il Concilio Digito de Leonardo Sciascia est un roman historique italien qui prend la forme d'un roman apologue. À partir d'un épisode situé en Sicile entre 1782 et 1795, l'auteur met en scène la montée d'une vaste imposture autour d'un faux document arabe fabriqué par le frate Giuseppe Vella pour défendre des privilèges féodaux menacés. Le livre ne se limite pas à reconstruire un fait du passé, il interroge la façon dont la vérité historique peut être produite, déformée et instrumentalisée. En parallèle, il suit aussi la trajectoire de Francesco Paolo Di Blasi, figure éclairée et patriote, ce qui permet de confronter deux rapports opposés au savoir, à la justice et au pouvoir. Sciascia transforme ainsi une intrigue d'archives en réflexion politique et morale sur la Sicile, sur ses structures sociales et sur la fragilité de toute vérité officielle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la falsification du document comme moteur de l'intrigue et symbole du pouvoir. Le cœur du roman est la fabrication d'un faux code arabe par Giuseppe Vella, qui le présente comme une source authentique sur les anciennes institutions siciliennes. Cette imposture n'est pas seulement un stratagème personnel, elle montre comment un document peut être utilisé pour réécrire l'histoire à l'avantage d'intérêts précis. Sciascia fait ainsi du faux une force active, capable d'agir sur les tribunaux, sur les élites et sur la perception collective du passé. Le roman montre que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la violence ou sur la naissance, mais aussi sur la capacité à contrôler le récit des origines. La falsification devient alors une méthode politique et non une simple escroquerie isolée. En suivant la progression de cette supercherie, le lecteur comprend que la crédulité institutionnelle peut être aussi décisive que la ruse du faussaire. Le livre propose donc une analyse concrète de la manière dont une fiction savamment fabriquée peut se faire passer pour vérité historique. Deuxièmement, une réflexion sur la vérité historique et la fragilité du savoir, le roman ne s'intéresse pas uniquement aux mensonges, mais à la manière dont la vérité historique est construite, transmise et validée. Sciascia insiste sur l'ambiguïté du savoir fondé sur les archives. Un document semble apporter une preuve, mais il peut aussi devenir l'instrument d'une manipulation. Cette tension traverse tout le récit et donne au livre une portée intellectuelle majeure. Le lecteur est invité à comprendre que l'histoire n'est jamais un simple dépôt de faits neutres. Elle dépend de lecture, d'interprétation et d'intérêts de concurrents. Dans ce cadre, le roman devient une méditation sur la méthode critique elle-même. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la découverte de la supercherie, mais la difficulté de distinguer ce qui est attesté de ce qui est supposé. Sciascia ne propose pas un relativisme facile, il montre au contraire que la recherche de vérité exige vigilance, examen et méfiance face aux certitudes trop bien organisées. Le roman prend ainsi valeur d'avertissement sur la vulnérabilité des discours historiques. Troisièmement, la Sicile des privilèges féodaux et des tensions entre réforme et immobilisme. L'action se déroule dans une Sicile de la fin du XVIIIe siècle marquée par les privilèges aristocratiques et les résistances aux changements politiques. Le faux de Vella fonctionne précisément parce qu'il peut être mis au service d'un ordre social qui cherche à se défendre. Sciascia montre une société traversée par les intérêts de caste, où la défense des privilèges s'accompagne d'un usage habile de l'érudition et de la bureaucratie. Le roman éclaire ainsi le lien entre structure sociale et manipulation intellectuelle. Quand l'ordre établi se sent menacé, il peut se saisir de n'importe quel argument pour se justifier. Cette dimension historique donne au livre une profondeur civique, car il ne traite pas seulement d'un épisode ancien, mais d'un mécanisme durable. La Sicile apparaît comme un espace où les réformes se heurtent à des pouvoirs enracinés, où la modernité politique avance lentement et de manière conflictuelle. En faisant de ce contexte le théâtre de l'imposture, Sciascia révèle que les crises de vérité sont inséparables des crises de pouvoir. Quatrièmement, la figure de Francesco Paolo Di Blasi comme contrepoint éthique et politique. À côté de Giuseppe Vella, Sciascia place Francesco Paolo Di Blasi, juriste intellectuel et patriote, dont la présence introduit une autre manière d'aborder l'histoire. Di Blasi incarne un rapport éclairé à la loi, à la réforme et à la responsabilité publique. Son parcours oppose une recherche de justice à la logique de l'imposture, ce qui donne au roman une structure de contraste très forte. Là où Vella exploite les faiblesses du système, Di Blasi tente d'en penser la transformation dans un horizon politique plus exigeant. Ce face-à-face évite au roman de se réduire à une simple chronique du faux. Il lui permet de poser la question de ce que peut être une conscience historique lucide. Di Blasi n'est pas seulement un personnage secondaire, il représente la possibilité d'un idéal réformateur confronté à la dureté du réel. Sa trajectoire met en relief la solitude de ceux qui cherchent la vérité dans un environnement dominé par l'ambiguïté, la peur et les calculs. Le roman gagne ainsi une tension morale qui dépasse l'anecdote historique. En dernier lieu, une écriture d'allure classique qui transforme l'histoire en satire durable. L'un des traits les plus remarquables du livre est la manière dont Xiaxia associe clarté stylistique, ironie et rigueur narrative. La prose reste sobre, précise et lisible, mais elle permet une ironie constante envers les mécanismes du pouvoir et les personnages qui les servent. Le roman n'emploie pas la satire comme simple moquerie, il s'en sert pour révéler la vanité des discours officiels et la facilité avec laquelle une société peut se laisser séduire par ses propres mensonges. Cette écriture donne au livre une portée durable, parce qu'elle évite l'effet purement documentaire. L'intrigue historique devient un modèle d'analyse applicable à d'autres contextes où l'information est manipulée. Le mélange de récits, de réflexion et d'ironie explique aussi pourquoi l'œuvre est souvent lue comme un classique civique, autant que comme un roman historique. Xiaxia ne cherche pas à produire une reconstitution pittoresque. Il construit une forme qui oblige à penser les rapports entre langage, autorité et vérité. C'est ce qui distingue fortement le livre dans son genre. En conclusion, Il Concilio Digito s'adresse surtout aux lecteurs qui recherchent un roman historique exigeant, mais aussi à ceux qui s'intéressent aux rapports entre archives, pouvoir et fabrication du vrai. Il convient à un public attentif aux textes où la fiction sert à penser un problème intellectuel et politique, plutôt qu'à offrir seulement une reconstitution époque. Sa principale utilité est double d'un côté. Il fait comprendre de manière concrète comment une société peut être trompée par un document apparemment légitime. De l'autre, il invite à lire l'histoire avec prudence, en évaluant les sources et les intérêts qu'elle cache. Ce qui le distingue de nombreux romans historiques, c'est qu'il ne se contente pas d'utiliser le passé comme décor. Il transforme un épisode sicilien en réflexion générale sur la crédulité, l'autorité et la responsabilité de celui qui écrit l'histoire. La précision de l'écriture, l'ironie et la portée morale en font une œuvre singulière, plus critique que romanesque au sens traditionnel et durablement actuelle. Si vous souhaitez soutenir Leonardo Xiaxia, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.